Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Stéphanie. Comme elle le dit si bien, le métier de diététicien ne se résume pas au grand titre « moins 3 kilos avant le maillot » mis en avant par les magazines féminins. Elle vient aujourd'hui vous expliquer en quoi son rôle de diététicienne est capital dans notre société actuelle. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Marielle.
Je te souhaite la bienvenue sur Compresse et Sparadra.
Merci de m'accueillir.
Ben écoute, c'est moi qui suis ravie. Stéphanie, je voulais juste commencer cet épisode en lisant les quelques premières lignes du mail que tu m'as envoyé. Alors il y a un moment, maintenant j'ai un peu honte, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes pour le podcast. Je ne me plains pas, c'est très agréable pour moi. Mais alors, ton mail m'a tout de suite accrochée, quoi.
Ah ben écoute.
Vraiment, c'était la bonne introduction qu'il fallait me faire pour que j'aie vraiment le plaisir de te recevoir ici. Alors, tu m'avais écrit « Je suis diététicienne, pas esthéticienne, non. Une idée pour un prochain TikTok, haha. Ni nutritionniste, enfin aussi, mais ça tout le monde pourrait le dire. Diététicienne, cette profession de santé, au même titre que tous les paramédicaux, dont la réforme est repoussée d'année en année depuis 40 ans, point d'interrogation, est bien trop souvent réduite au moins 3 kilos avant le maillot ou à la prise des commandes des plateaux repas dans certains établissements en Suisse. » Voilà, je crois que ça plante le décor. Et donc tu vas être voilà, avec moi pendant ces quelques prochaines minutes pour nous parler de ce métier qui, en effet, est victime de beaucoup de stéréotypes. Et c'est pour ça que je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc merci pour ça, Stéphanie.
Merci à toi et merci justement de pouvoir donner la parole à ce métier aussi.
Alors Stéphanie, pour commencer, je te laisse te présenter.
Oui. Donc, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, et je suis donc diététicienne. Je suis française, j'ai fait mes études en France, et puis j'ai rejoint mon pays de cœur, qui est la Suisse, il y a maintenant une dizaine d'années, où je travaille maintenant.
Très bien. Alors, on va pouvoir parler justement de ces petites différences, peut-être de la validation du diplôme en Suisse, etc. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... comment tu es arrivée à ces études et puis à ce métier par la suite?
Pourquoi comment? Oui, surtout que j'y suis pas arrivée directement.
Ah, ok.
Je t'ai laissé des petites surprises quand même.
Mais exactement, c'est très bien.
En fait, en faisant un petit peu le cheminement, c'est vrai que je me suis rappelée qu'il y a toujours eu dans ma famille cette transmission, cet amour autour de la gastronomie, du bien manger, des produits. Je pense que là, ça a commencé à planter des petites graines. Et puis, dans les années 2000, j'avais une amie, ma meilleure amie, dont les parents étaient déjà à l'époque très orientés bio, etc. Alors à l'époque, tu vois, il y a plus de 20 ans, ils passaient un petit peu pour des 68 heures retardés. Alors qu'en fait, ça aussi, ça a continué à planter des petites graines, à me permettre de découvrir des nouveaux produits, de découvrir ce qu'était la nutrition, notamment, etc. Et toujours un peu plus tard, dans mon adolescence, je devais avoir 15-16 ans, ma grand-mère a été diagnostiquée avec une SLA, donc une sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot. Et là, on est passé vraiment dans le côté clinique de la nutrition au sens propre. Et j'ai découvert tout cet univers du trouble de la déglutition, de la nutrition entérale, des prises en charge très lourdes. Et ouais, ça a fait germer quelque chose en moi. Bref, lycée, 17 ans, tu dois te décider sur tes études. Je savais pas trop quoi faire. J'y connaissais pas grand chose. Et en fait, je suis partie en école de commerce. Voilà, donc j'ai fait un master en école de commerce dans l'idée de rejoindre l'industrie de la nutrition clinique.
Ah,
voilà,
d'accord.
C'était un peu l'idée. Ça avait germé en moi. Je voulais faire quelque chose autour de l'agroalimentaire, mais je ne savais pas vraiment quoi. Il y a un peu ce vif intérêt pour ces produits très spécifiques, tu vois, de nutrition clinique qui s'est mis en place. Et je me suis dit, bon, allez, partons dans des études généralistes et puis on verra bien. Et je sais aussi que, en plus de la nutrition clinique pour adultes, petit à petit, il y a la nutrition clinique pédiatrique et infantile qui est venue. Je me souviens, je ne sais plus quel âge j'avais, je devais être autour du lycée. On était un soir dans la voiture avec mes parents. Alors, faut t'imaginer, mon père était militaire. Donc, imagine une mégane de service. À l'avant, tu as deux militaires en képi. Et derrière, on était trois avec ma maman et une de ses autres collègues, mon papa. on rentrait comme ça. Et puis, on discutait et ses collègues me disaient « Ah, mais au fait, toi, tu voudrais travailler dans quoi ?» Et là, je me souviens précisément leur avoir dit, je ne sais pas pourquoi, mais leur avoir dit « Dans la nutrition infantile, dans la nutrition clinique infantile. » Ils me regardaient, ils me disaient « Mais c'est quoi ?» Et j'ai fait « Bah voilà, c'est tous ces produits dont on n'entend pas parler qui sont destinés aux personnes, aux patients, en l'occurrence aux enfants, qui présentent des troubles de l'alimentation, qui présentent des besoins spécifiques. » Et j'ai commencé absolument à me passionner là-dessus. Petit à petit, j'avançais dans mes études en école de commerce. Je faisais des stages, à chaque fois stage en agroalimentaire. Clairement, ça confirmait. Puis arrivais vers niveau bac plus 4 à peu près, où ça se précisait, tu vois, la fin des études arrivait. Mon mémoire de fin d'études, il était déjà dans les bacs, et j'étais partie sur une analyse du marketing agroalimentaire pour les produits pour enfants.
Tu vois, déjà, dis donc. Voilà. Tout un bon cheminement logique.
Totalement. Et puis, je suis quelqu'un de très... très perfectionniste, pas du tout confiance en moi. Donc, je me disais, si je veux partir là-dedans, il faut que je me spécialise. Tu vois, il faut que je sache de quoi je parle. Pour moi, c'est essentiel. Faut que j'ai une expertise derrière. C'est des produits qui sont tellement particuliers. On s'adresse à une population qui a des besoins hyper spécifiques, hyper précis. Je peux pas me permettre d'arriver comme ça. Hey, bonjour, j'ai un master en marketing. Je débarque dans l'industrie, prenez-moi. Ça me paraissait pas du tout possible. À ce moment-là, j'avais plus ou moins deux options qui s'ouvraient à moi. Soit faire un master spécialisé en agroalimentaire, qui grosso modo se résume à 6 mois de stage et un carnet d'adresses à la sortie.
D'accord.
Ou rempiler pour 2 années d'études. En France, le BTS diététique, c'est 2 ans. Donc, repartir pour 2 années d'études, vraiment, du coup, très spécialisé dans ce domaine de la nutrition, de l'alimentation. Avec un deuxième diplôme à aller à clé. J'avais un an d'avance, en fait, je suis née le 8 janvier, tu vois. J'avais 8 jours d'avance, j'avais sauté une classe. Du coup, ça a toujours été un petit peu mon joker pendant tout le long de mes études. Donc, avec mes parents, on en a pas mal discuté. Ils étaient hyper soutenants. Ils m'ont dit, écoute, si tu penses que faire un deuxième diplôme, faire ce BTS diététique pour te spécialiser, parce que c'était vraiment comme ça que je le voyais, tu vois, comme une spécialisation, vas-y. Donc, à la fin de mes 5 premières années d'études, je repars pour un cursus de diplôme de diététicien. Et là, c'est très bizarre parce que tu repars à l'école, en fait. Tu repars au lycée.
Et puis, tu te retrouves, j'imagine, avec des gens qui ont 18 ans, absolument, qui sortent du bac.
Ouais, absolument. Alors que toi, tu as déjà tout un cheminement professionnel derrière. C'est exactement ça. Tu te retrouves à devoir te souvenir de tes cours de lycée. Alors, heureusement, j'avais fait première terminale scientifique, option bio. Donc, je me raccrochais un peu à ça. Mais c'est vraiment ça. Tu te retrouves. Alors, on avait 5 ans d'écart. En soi, c'est pas énorme, mais
cet âge-là, c'est quand même, c'est une grosse différence. Ouais. Et cette idée de partir en BTS diététique, toi, tu étais la seule dans ta promotion à faire ce choix-là, enfin, en tout cas, une des rares, ou c'est quelque chose qui est assez, courant? Non, c'est rare.
Non, j'étais vraiment la seule. Éventuellement, l'inverse peut se voir. Okay. Tu vois, après le bac, tu commences par ton BTS diététique, et puis après, tu peux poursuivre en licence. Pourquoi puis pas après faire un master en école de commerce? Pourquoi pas, ça c'est possible.
Ouais. D'ailleurs, pas trop dans l'autre sens, ouais.
Mais dans l'autre sens, non. Puis d'ailleurs, c'est vrai qu'en école de commerce, j'avais notamment un pharmacien qui, lui, tu vois, se spécialisait, acquérait, comment on dit, passait un double diplôme avec une spécialisation marketing. Mais non, dans l'autre sens, ça se faisait vraiment pas trop. Ouais.
Okay. Du coup, tu reçois le soutien de ta famille. Tes parents sont très, très encourageants pour que tu reprennes, enfin, pour que tu poursuives tes études, en tout cas. C'est dans un bon contexte familial déjà.
Oui. Bon, j'avais toujours travaillé pendant mes études et la condition, c'était quand même, pourquoi pas. Malgré tout, financièrement, ça a quand même une conséquence. Donc, continue quand même à bosser pendant ton BTS diététique. Pas évident parce que le programme est déjà hyper dense. C'est des études qui sont encore en 2 ans. Je crois qu'on est les derniers professionnels de santé à être encore en 2 ans. Et non pas en 3, comme toi par exemple, infirmière, si tu dis pas de bêtises.
Exactement.
Et c'est vrai que le programme s'enrichit d'année en année sans que le volume horaire n'augmente. Donc c'était pas évident. Mais voilà, donc je me retrouve là-dedans, première année, stage en restauration collective. Je pense que toutes les diététiciennes qui m'écoutent sauront de quoi je parle, se lever à 4h30 pour aller dans des cuisines collectives, parce que c'est aussi une grande partie du métier, on ne le sait pas forcément, mais on est formé à tous les aspects HACCP, donc hygiène alimentaire, sécurité sanitaire.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ça, on ignore. Enfin, je parle pour moi, mais je l'ignorais.
Non. Totalement, totalement. Donc, c'est obligatoire dans la formation de passer par deux stages, si je ne dis pas de bêtises, en restauration collective au cours de la première année. Et puis, la deuxième année, là, on a les stages hospitaliers qui plaisent généralement à largement plus de monde parce que c'est beaucoup plus concret et c'est aussi ce vers quoi on a plus tendance à vouloir se diriger. Voilà, donc deuxième année, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes stages à Paris, à la PHP, donc à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et deuxième stage dans un grand hôpital parisien qui avait une maternité. Et là, tu me vois.
Je le vois bien.
Tu me vois venir. On avait la chance aussi d'avoir des responsables de stage qui nous permettaient, quand on arrivait, de leur soumettre un peu nos choix, nos souhaits.
Ah, super.
Ouais, vraiment top. Alors après, ils nous casaient là où il y avait la possibilité. Et puis, tu vois, d'habitude, tous les étudiants, enfin, une grande majorité des étudiants en diététique veulent partir dans les services de gastro-entérologie. C'est un peu la voie royale, classique. Mais alors, moi, pas du tout. Il y avait une maternité. Non, mais c'est bon, je fonce, je veux la place, quoi. Et bien sûr, les responsables qui me disent « Oh, bah oui, pas de souci, vas-y, je pense que la diététicienne de maternité sera ravie d'avoir quelqu'un.
» Génial.
Et ouais, et top. Vraiment, pas révélation, mais confirmation. Donc, maternité à suivre à la fois des mamans enceintes, des femmes enceintes, des mamans juste après l'accouchement avec leur bébé, aussi la néonate. Et c'était aussi hyper intéressant parce qu'on rentrait encore plus dans l'aspect vraiment précis, vraiment technique de ces petits bébés, de comment tu les nourris, de comment tu les alimentes, de comment t'enrichis le lait que la maman peut tirer, vers quelle formule infantile tu tournes, etc. Donc, ça a complètement confirmé ce que j'avais en tête depuis un bon moment et mon idée vraiment de vouloir partir dans ce domaine, dans cette industrie. Ouais, chouette. Et puis, pendant ce stage, il y a eu un moment, ça m'a fait penser à toi quand je t'ai connue un peu plus tard. On avait souvent des ateliers pour les mamans, pour les futures mamans, les femmes enceintes. Et une fois, on a eu un atelier avec une femme enceinte qui était sourde, malentendante. Et c'était un moment suspendu dont je garde absolument un souvenir unique. Il faut imaginer, il y avait deux couples. Donc, deux couples avec à chaque fois la maman qui était malentendante. On avait l'interprète en langue des signes et puis ma responsable de stage et moi. Et t'étais mis comme dans une bulle où nous, on parlait normalement. Ils nous avaient bien dit de nous adresser aux mamans, de les regarder, de ne pas regarder l'interprète parce que les mamans savent lire sur les lèvres, etc. Mais il y avait une telle atmosphère douceur, feutrée, je sais pas comment te dire, c'était totalement un moment suspendu. Et c'est vrai que si je me trompe pas, t'avais dit que tu t'étais un peu initiée à la langue des signes.
Alors je connais quelques mots, mais ça reste un projet que j'espère je mènerai à terme un jour, mais j'adorerais apprendre la langue des signes.
Et donc voilà, c'était un moment.
Ouais. Puis c'est fascinant, hein, quand je trouve, quand on est face à une personne malentendante et puis de voir tous ces gestes et puis se rendre compte qu'on peut complètement discuter différemment et que la communication, c'est absolument pas, ne se résume pas qu'au langage oral.
Vraiment,
c'est hyper intéressant.
Plein d'autres choses qui passent. C'était, je pense, une des choses qui m'ont le plus marqué, tu vois. Donc voilà, fin de ce stage. Et puis au final, en maternité, ce sera mon premier vrai job de diététicienne. J'ai poursuivi un petit peu. Et voilà.
Et donc dans ce stage, tu interviens à la fois auprès des mamans qu'auprès des bébés.
Oui, absolument.
Ouais. Super.
Ouais, ouais. Enfin, stage et puis, puis maternité.
Et puis, oui, et puis maternité.
Ensuite, ouais, 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 tout à fait. On suit les mamans enceintes, alors beaucoup de diabète gestationnel. Mmh. Dans cet hôpital-là aussi comme c'est un hôpital public, il y avait une population très hétéroclite qui venait de beaucoup de pays, pas mal de populations immigrées aussi. Donc, c'est vraiment intéressant parce que d'une part, forcément, tu as l'approche sociale, l'approche avec certaines difficultés. Et puis, cette approche de la variété de l'alimentation, de la variété de l'alimentation dans le monde, des habitudes alimentaires.
Et de l'aspect culturel de l'alimentation,
ouais,
quoi.
Ouais, totalement, ouais. totalement. Des vraies richesses à ce niveau-là. Hyper intéressant.
Tu as des exemples de, je sais pas, peut-être des rencontres qui t'ont marqué avec des mamans où tu t'es dit « Ah bah je savais pas que dans tel pays, je sais pas, on dit que, je raconte n'importe quoi, hein, mais on raconte qu'une femme enceinte doit manger, je sais pas, un steak tous les jours, ou je sais pas, il y a
oui,
des choses comme
surtout,
ça ?»
C'est surtout dans nos pays occidentaux.
Oui, là je parle surtout de la France. Le gros a priori sur la viande rouge à tous les repas, c'est... voilà.
C'est surtout ça. Non, par contre, on avait pas mal de mamans qui étaient originaires du continent africain, par exemple, et puis où tu avais une grande présence des céréales, des légumes secs dans l'alimentation. Qu'est-ce qu'on avait ouais, on avait aussi pas mal des Balkans, donc avec une autre approche également de l'alimentation. Et puis beaucoup de mamans qui ne parlaient pas français aussi. Et là, il fallait réussir également à se faire comprendre pour passer les bons messages, bien les comprendre elles, et puis bien faire passer les messages, notamment quand tu as des mamans qui ont des diabètes gestationnels en face de toi, tu as envie d'être clairement bien comprise.
Oui, j'imagine, ouais.
Ouais, ouais. Donc vraiment hyper intéressant sur le plan humain avant tout.
Ah bah j'imagine, ouais. Bon alors du coup, ce stage, c'est la révélation, et une fois que tu es diplômée, tu te dis « je vais rester dans ce domaine ».
Je continue. Clairement, je continue, je signe, je persiste, ouais. Donc j'arrive à poursuivre... un petit peu là, et la vie nous amène au bout de quelques temps à rejoindre la Suisse, donc avec mon conjoint d'alors. Faut savoir que j'ai un amour pour ce pays qui m'a été transmis par mes parents, par ma maman notamment, qui à l'époque avait fait ses études là-bas, puis était revenue en France ensuite, mais aussi comme mon papa est militaire, comme je l'ai dit, qu'on bougeait tout le temps, tous les deux ans on déménageait, et bah c'était un petit peu le point fixe où on se retrouvait, où on avait nos habitudes. Et je me souviens que très petite, je m'étais dit, quand je serai grande, j'irai vivre là-bas. Donc contrairement à beaucoup de personnes, par exemple françaises, qui vont travailler en Suisse, nous on y est vraiment allé pour y vivre et pour le pays. Et donc on est parti lorsque mon conjoint avait trouvé un travail. On s'était dit, le premier des deux qui trouve,
l'autre le suit.
Ouais, exactement.
Okay.
On avait fait ça comme ça. Donc lui avait trouvé en premier. Il avait un métier quand même beaucoup plus facile que le mien pour trouver un emploi. Et moi j'y suis. Et pas facile parce que en fait, autant mon cursus à moi me paraissait évident, tu vois, c'est évident, je veux travailler en nutrition clinique, en nutrition infantile, j'ai un master en marketing, j'ai une spécialisation en nutrition, comme sur des roulettes, et pas du tout.
Aïe, aïe, aïe.
Les gens, en fait, les recruteurs ne comprenaient absolument pas mon parcours. Ils me disaient, mais vous vous êtes réorientée, c'est quoi cette histoire?
Ah oui, vous voyez ça comme deux histoires qui s'enchaînent, ouais, mais qui n'ont pas de lien l'une
absolument
avec l'autre.
Absolument. Okay. Absolument, alors que dans ma tête, c'était très clair et c'était évident, tu vois. Donc, grosse difficulté quand même pour trouver du travail, d'autant que j'avais un diplôme étranger pour la Suisse, diplôme de diététicien. Pour vous faire une petite parenthèse éventuellement, donc diététicien, on est professionnel de santé, donc ce sont des professions qui sont réglementées, qui sont soumises en Suisse à autorisation de pratique. En France, dans tous les cas, on doit faire enregistrer notre diplôme. Et c'est vrai qu'en Suisse, si tu veux travailler, notamment en hôpital, en pratique libérale, tu es obligé d'avoir ta reconnaissance de diplôme. Et la reconnaissance du diplôme, elle n'est pas facile parce que les études ne sont pas les mêmes.
Ah, d'accord.
Ouais.
Et donc, ce n'est pas juste une formalité administrative.
Non, non, non. Je pense que pour les infirmiers, c'est plus ou moins une
formalité. Clairement, c'est de la paperasse. Ouais, ouais.
Ouais, clairement. Tandis que nous, non, il faut travailler au moins 2 ans en Suisse à 100%.
Ah, d'accord.
Sous la responsabilité d'un diététicien diplômé en Suisse. Enfin, je te dis ça à l'époque, hein, il y a 10 ans, ça a sûrement encore
évolué. Ça a peut-être un peu changé, mais en tout cas, voilà, c'était difficile. Ouais.
C'était pas évident. Passer des cours supplémentaires pour faire des sortes de mises à niveau, puisque en Suisse, t'es sur un niveau bachelor, 3 ans.
Ah, d'accord.
En France, t'es encore sur 2 ans d'études.
Ah oui, donc ils te valident forcément pas ton diplôme, puisqu'il n'y a pas le même nombre d'années d'études. Ouais, donc il serait vraiment temps qu'en France, on arrive au moins à un niveau licence.
Ce serait
quoi.
Bien.
Ouais, ce serait bien. Ne serait-ce que pour harmoniser tout ça. Donc, puis sans dire d'harmoniser tout ça, la logique dans deux pays frontaliers, quand même, c'est que ça se passe plus ou moins de la même façon.
Oui, même au niveau européen. Simplement au niveau européen, on parle énormément de tous ces programmes Erasmus, ce que tu veux, on bouge, enfin je veux dire maintenant on est une génération qui se déplace très volontiers, qui change de produit, de pays très volontiers, ouais, ce serait bien, ce serait une bonne chose, ne serait-ce que aussi pour la profession diététicien en France, pour qu'elle ait une meilleure reconnaissance, tout ça ce serait bien. Bref, donc pas mal de difficultés à trouver un emploi et je trouve finalement un emploi auprès de l'ONU. Dans la société de restauration collective qui s'occupe de la restauration de l'ONU à Genève. Donc, à Genève,
on a combien de milliers de personnes qui travaillent dans le bâtiment.
5 000 personnes, 2 à 3 000 repas servis par jour.
Oh mon Dieu.
Une multitude de nationalités différentes.
Mais oui.
J'ai même oublié.
Mais oui.
Donc, un environnement absolument... unique, incroyable.
Cosmopolite dans tous les sens du terme.
Totalement. Donc, c'est un boulot de diététicienne en restauration collective, mais un peu particulier quand
c'est
même.
Ouais.
Surtout que le poste, c'était une création de poste et il s'orientait sur l'approche nutrition et également développement durable.
Ah d'accord.
Ouais.
Double enjeu.
Oui, exactement. Bien évidemment, pas du tout formée à l'environnement, au développement durable. Forte sensibilité, ça me parle beaucoup, mais ça s'arrêtait là. Donc, hyper intéressant. Tu vois, tu te retrouves du jour au lendemain, déjà dans les locaux de l'ONU. Déjà, rien que ça.
Ah ouais, pour ceux qui sont passés en tout cas par l'ONU, je pense qu'ils voient de quoi on parle, mais c'est déjà intimidant de l'extérieur, quoi.
Déjà, tu sens... Alors, c'est magnifique et intimidant parce que tu sens... tout l'aspect historique de ce bâtiment, de ces lieux, c'est un espèce d'îlot dans Genève, tu vois. Un truc complètement incroyable. Et puis passer, alors pour la première fois, mais tous les jours, quand tu passes ce portail, tu te fais « ouais, quand même, ça envoie quand même ».
Je travaille là.
Alors, je ne suis pas employée de l'ONU, je suis sous-traitante, mais…
c'est vrai.
Mais quand même, et ouais, t'as une atmosphère, t'as quelque chose que je pense tu trouves nulle part ailleurs, de par cette multiculturalité, de par tout ça, et de par aussi les enjeux que t'as à l'ONU, parce que t'as tous les fonctionnaires de l'ONU qui travaillent, je dirais, à son fonctionnement au quotidien, mais bien évidemment, t'as aussi les événements qui peuvent s'y produire, les réunions de chefs d'État, de délégations. Ça a une résonance toute particulière. Donc, bref, moi j'étais là pour plusieurs choses. D'abord, une partie diététicienne en restauration collective, je dirais classique. Tu revois les menus. Alors, les menus, quand tu as 2 à 3 000 personnes qui ont toutes des nationalités différentes, avec des régimes différents, c'est rigolo.
Et est-ce qu'il y avait déjà cette notion, cette envie de proposer... tu parlais par exemple de l'importance des céréales par exemple dans le continent africain. Est-ce qu'il y avait cette notion de proposer des féculents de différentes formes, de, je sais pas, des plats plus ou moins épicés? Enfin, je me rends pas compte, tu vois, à cette échelle-là.
En fait, la difficulté, c'est de plaire plus ou moins à tout le monde.
Et puis alors, dans l'assiette, mettre tout le monde d'accord, c'est quand même pas simple.
Donc, pour résumer les choses, en fait, tu avais chaque jour 5-6 menus différents qui étaient proposés.
OK.
Ouais. Pour essayer de satisfaire plus ou moins tout le monde. Alors, tu avais quand même une forte présence de culture suisse dans l'assiette. Mm-hmm. Parce que malgré tout, certes, c'est l'ONU, mais c'est quand même à Genève et on est quand même en Suisse.
Bien sûr.
Et le chef de cuisine était suisse et les cuisiniers étaient suisses. malgré tout, vous voyez, voilà, il y a aussi cette volonté de transmettre également ce qu'on mange en Suisse. Il y a aussi une forte volonté d'approvisionnement local. On parlait de développement durable, ça, c'était aussi un point vraiment important. Donc, si tu veux t'approvisionner en local, si tu veux t'approvisionner en saisonnier, mm-hmm. t'es quand même obligé de respecter ce qu'il y a sur place et c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Voilà, donc toute cette approche dans l'assiette de 60-100 nationalités différentes.
Ouais, c'est ça. Donc toi, ton travail, c'est de réfléchir main dans la main avec l'équipe qui est en cuisine à proposer des repas qui soient alors appétissants, mais aussi équilibrés. Et puis voilà, avec toute cette notion, j'imagine de ne pas faire venir des ingrédients de l'autre bout de la terre ou de respecter tout ça, quoi.
Exactement, exactement. Et puis souvent, on s'était retrouvé confronté à la problématique, ok, je prends du local, pas bio, ou du bio, pas local.
Ah oui, c'est la question. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu commences vraiment à t'arracher les cheveux, et ça, c'était aussi des questions qu'on avait en local avec nos interlocuteurs dans l'ONU. Vraiment intéressant, ça soulève des problématiques qui sont super intéressantes. Donc, tu avais cette partie-là pour toute l'alimentation. Tu avais aussi une partie, comme je le disais tout à l'heure, hygiène, HACCP, avec 2 à 3 000 repas par jour. Le stress de la toxi-infection alimentaire collective reste quand même présent, forcément. Dès que tu as une petite gastro qui est déclarée, tu te fais « Ouh !» Ça vient d'où ? Est-ce que ça vient pas de nous ? Donc, ça, on l'imagine pas non plus, mais quand tu es dans des cuisines de restauration collective, tu as toute cette partie-là, toute cette partie d'échantillonnage de tous les plats qui vont sortir, de conservation, surgélation pendant X jours pour pouvoir mener des analyses microbiologiques dessus si besoin, pouvoir remonter toute cette notion de traçabilité également.
Et ça, c'est toi qui es en charge de toutes ces analyses ou est-ce que c'est une société extérieure? Comment ça se passe?
Oui, les analyses, bien sûr, c'est une société extérieure. Mais moi, disons, j'avais mon œil sur place. S'il se passait quelque chose aussi, pour aller expliquer, pour aller un petit peu mener ma propre enquête, première enquête. Mais sinon, non, les laboratoires sont extérieurs. Oui, là, on sort totalement de notre champ de compétences.
Et est-ce que tu as des exemples de choses auxquelles il faut faire vraiment très, très attention quand on est dans une restauration collective? Je ne trouve pas d'exemple, mais peut-être que la viande ne touche pas aliment ou je ne sais
absolument.
Pas.
Absolument. Mais déjà, quand tu reçois tes marchandises, en fait, et de façon générale, il y a tout ce qu'on appelle le système de marche en avant. C'est-à-dire que tu ne reviens jamais derrière et tes aliments, voilà, dont tu les reçois, ils sont emballés. L'emballage est sale. Donc, tu vas déjà tes emballages, les enlever dans une première pièce. Tes aliments vont passer dans une seconde pièce où à chaque fois, ils sont conservés à la bonne température par rapport à ce qui est indiqué, etc. Il y a peut-être potentiellement un deuxième emballage. Des fois, il faut faire attention à la façon dont tu retires, dont tu peux nettoyer ton emballage, etc. Et tu vas essayer de pas mettre en contact effectivement des produits d'origine animale crue avec d'autres aliments qui vont pas forcément se cuire, comme des fruits, des légumes que tu pourrais manger crus, etc. Mais c'est assez complexe. Mais voilà, il y a tout ce système de marche en avant, de nettoyage, de désinfection.
Tu vois, moi, hier, j'ai fait du poulet aux champignons, pour ne pas raconter ma vie. Et j'ai coupé le poulet et les champignons sur la même planche à découper. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait pas forcément. Enfin, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a des choses comme ça qu'on fait chez soi et qu'on peut probablement pas faire en collectivité.
C'est totalement ça. C'est exactement ça. Tout ce qu'on fait chez soi, on le fait pas trop en collectivité.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Parce qu'on veut à chaque fois limiter les risques, en fait. Parce que si tu as une bactérie pas trop désirable qui se reproduit et qui va contaminer plusieurs centaines de personnes, c'est un peu embêtant. Et encore là, on s'adresse à une population qui est en pleine santé.
Oui.
Mais t'imagines la même chose dans les hôpitaux, justement. Donc le niveau d'hygiène dans les cuisines d'hôpitaux,
ça doit être
c'est chose, tout autre chose.
Ouais. C'est sûr. Bon, alors du coup, tu passes combien d'années dans ce job ?
Alors là,
ce job
je passe 2 ans. 2 ans aussi à travailler en collaboration sur place avec le service médical de l'ONU pour tous les aspects, promotion de la santé, prévention.
Oh, génial.
Et du coup, tu vois, je peux dire que j'ai fait des conférences à l'ONU.
Oh, ça c'est quand même
ça claque, hein.
Ça c'est la classe. Non, mais du coup, un poste hyper complet. C'est vrai pour démarrer...
Oui. Ouais, vraiment, ce à quoi je me serais jamais vraiment attendue. C'est tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Donc, loin de ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que je gardais quand même toujours en tête mon objectif qui était d'aller dans l'industrie. Mais oui, qui reste hyper enrichissant avec des expériences que tu peux pas vivre ailleurs.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, quand tu reçois, il y avait aussi, on avait aussi un restaurant... on va dire gastronomique, où tu reçois les délégations, où tu reçois les chefs d'État et compagnie, et puis on te dit, ah, alors attention, dans cette délégation-là, il y a un tel, il est allergique à ci, ça, il a tel régime, toi t'es là derrière, t'es, les gars en cuisine, vous ne vous plantez pas, s'il vous plaît. Mais c'est rigolo. Et aussi, des moments super, super chouettes. Une fois, on avait eu le repas des chefs, de chefs d'État. Donc, les chefs de cuisine, des chefs d'État, je crois qu'ils étaient facilement 20-25.
Ah non,
donc, t'avais le chef de Barack Obama, t'avais le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez à l'époque, t'avais le chef du chef d'État japonais. Enfin, ils étaient tous venus pour se faire un repas entre eux à l'ONU, quoi.
Mais ça va, c'est pas intimidant comme...
Ouais, c'est des trucs absolument uniques, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait vraiment des souvenirs vraiment chouettes. Et bref, un jour, enfin, une grande entreprise de nutrition clinique, d'agroalimentaire avec une division nutrition clinique, sort un poste en nutrition infantile auquel je postule. Enfin, je réussis à passer toutes les étapes et voilà, j'arrive un peu à ce qui était pour moi le Saint Graal, l'objectif, un peu ce qui avait dicté, tu vois, tout mon parcours d'études.
Depuis le début,
Ouais, exactement. Et ça, ouais, je te dirais bien 10 ans plus tard, hein. Facile. Facile. Donc voilà, j'arrive dans cet industriel. Donc, au marketing, responsable des produits de nutrition clinique infantile et pédiatrique.
Oh là là, là tu dois te dire quand même.
Hey, là tu te fais. Hey,
là je suis
j'ai réussi.
Ouais, bah bravo, franchement, super d'avoir gardé cet objectif puis d'avoir réussi. Chapeau, hein.
Ouais, bon, merci. Mais ouais. Et là, mais alors, un autre monde, totalement un monde à part. Peut-être en quelques mots décrire ce qu'est la nutrition clinique infantile et pédiatrique. Ouais. Alors, nutrition infantile, c'est tout ce qui concerne les préparations commerciales pour nourrissons. Également appelée formule infantile. Et moi, en particulier, j'étais sur les préparations commerciales pour nourrissons, donc les aliments spéciaux pour nourrissons, il y a toute une réglementation derrière, qui était destinée aux bébés, aux nourrissons polyallergiques, allergiques aux protéines de lait de vache, ou qui présentaient des pathologies gastro-intestinales, des retards de croissance, éventuellement même des nourrissons qui pouvaient avoir des cancers, ce genre de choses. Donc, hyper spécifique, tout ce que j'adorais, tu vois, sur le papier. Tu rentrais vraiment dans un domaine d'expertise, de minutie.
Complètement, ouais.
Hyper intéressant. Et au niveau pédiatrique, c'était ce qui concernait les nutritions entérales pédiatriques. Donc, les nutritions entérales, quand un patient doit être nourri par une petite sonde qui passe par le nez, qui rejoint l'estomac, ou qui traverse la paroi abdominale. Également, tout ce qui est de l'ordre du supplément nutritionnel oral. Ça doit te parler.
Complètement, les SNO.
Les SNO, voilà, les fameux.
Les fraises du bain Fortimel, pour ne pas les citer. Les petites bouteilles, pour vraiment vulgariser ça, les petites bouteilles remplies de protéines, voilà, qu'on peut donner à des patients dénutris.
Oui, exactement.
Que ce soit en hospitalier ou même en extra-hospitalier, à domicile, il y a des gens qui mangent ça tous les jours.
Oui, totalement. Donc ça, en version pédiatrique.
Ok.
Et puis également un produit pour la maladie de Crohn, alors une maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
D'accord.
Voilà, c'était mon portefeuille produit que je devais développer pour le marché suisse. Et là, tu rentres vraiment dans un univers qui est très au contact de toute la veille scientifique, de la recherche. Je m'y attendais pas particulièrement, je pensais pas à ce point-là en réalité. J'imaginais bien sûr que c'était pas basé sur le doigt mouillé, tu vois. Mais vraiment, cette entreprise-là avait des centres de recherche. On avait des médicales à faire, des personnes dédiées à la veille scientifique. J'ai vraiment découvert toute l'approche des études de la recherche, comment lire des études, quoi en tirer. Alors aussi, tu peux en tirer un petit peu ce que tu veux, ça c'est une autre chose. Tout l'aspect également réglementaire, ça occupe mais une partie de ton temps absolument infini, parce que ce sont des produits médicaux qui sont soumis à remboursement médical, à remboursement par les assurances, par les assurances sociales, la LAMAL en Suisse, la Sécurité sociale en France, qui sont sur prescription médicale. Donc, évidemment, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Totalement, et tu fais encore moins ce que tu veux avec des produits pour nourrissons. Notamment pour des produits de nourrissons de 0 à 6 mois. Tu fais vraiment pas ce que tu veux, parce que à côté de ça, tu as le code le code qui régit en fait la promotion, la commercialisation des produits pour nourrissons afin de préserver l'allaitement maternel. Donc tout ça, tu dois aussi le prendre en compte. Donc tant au niveau des formulations, des ingrédients que tu peux mettre dedans, des quantités de chaque ingrédient que tu peux mettre dedans, que sur la façon dont tu vas communiquer, ou plutôt ne pas communiquer, très clairement, c'est là aussi hyper complet, hyper réglementé, et ce qui est bien, ce qui est une bonne chose, ça assure quand même la protection du consommateur et la promotion quand même de l'allaitement maternel.
Donc ça fait en sorte que ces produits se rapprochent au maximum du lait maternel sans jamais le remplacer et sans jamais en faire la promotion au détriment de l'allaitement maternel.
Alors je dirais que ça s'en inspire. que ça essaye de s'en inspirer. De plus en plus, mais qu'on n'y est pas quand même. Autant, c'est des produits qui sont totalement sûrs pour les nourrissons, ça c'est clair, il n'y a aucune question à se poser là-dessus, qui sont utiles. Déjà parce que, en fait, c'est le choix de chacun d'allaiter ou de ne pas allaiter, et c'est avant tout quelque chose qui doit être respecté, qui doit être accompagné, qui doit être informé, mais c'est avant tout le choix de chacun.
Et puis parfois c'est même pas un choix, donc il faut aussi dans les situations où il n'y a pas de choix possible, de pouvoir garantir une sécurité maximale.
Totalement. Et c'est là aussi que moi du coup j'ai justement commencé à me former spécifiquement en allaitement maternel. Parce que c'est quelque chose, alors justement tout l'aspect nutrition infantile, allaitement maternel, nutrition de la grossesse, pas du tout abordé pendant les études. D'accord. Absolument pas. Je crois grossesse, j'y ai passé une heure. Alimentation de l'enfant, 2 heures, mais de l'enfant à partir de l'âge de 3 ans, tu vois. Rien avant. Et allaitement maternel, absolument pas. Alors que quand on parle d'un nouveau-né, forcément, l'aliment auquel on pense instinctivement, c'est le lait maternel. Il y a la nature le conçoit, il n'y a pas mieux. Donc c'est là aussi, tu vois, ça peut peut-être paraître paradoxal, mais c'est justement en travaillant dans le domaine de la nutrition infantile que j'ai encore plus voulu me former à l'allaitement maternel, pour savoir précisément mais ce que c'était, ce que ça contenait, comment ça fonctionnait, et puis pouvoir faire le parallèle ou pas avec les formules que les industriels proposent. Donc, cette première formation. Et puis, petit à petit, j'ai aussi poursuivi mes formations en nutrition infantile, en nutrition pédiatrique, au Canada et aux États-Unis, parce qu'on n'a rien en Europe dans ce domaine-là qui soit vraiment avancé. Il y a des formations de quelques heures, quelques jours, mais pas plus. Et comme je pense dans beaucoup de semaines, dans beaucoup de domaines de la santé, il y a beaucoup qui vient du Canada, des États-Unis,
notamment. Du Nord, ils sont très en avance sur beaucoup de domaines.
Ils ont 10 ans d'avance sur nous, facile.
En soins infirmiers, dans plein de... Ouais, je suis complètement d'accord. Et ces formations sont financées par ton employeur ou alors côté? Ah non, c'est une volonté personnelle.
Absolument. Oui. Ok. Vraiment, c'est moi sur mes congés. Je paye mes formations, je les finance. Non, parce que mon employeur n'a aucun intérêt à me financer ces formations. Du tout. Mais voilà, on est toujours, je pense, dans un de mes défauts quand même, qui est de vouloir toujours aller plus loin dans l'expertise, plus loin dans la connaissance.
Non, c'est pas un défaut.
Oui, mais bon, ça m'arrange pas tous les jours.
Ça, c'est un autre problème. non, mais c'est tout à ton honneur de vouloir personnellement, de ton côté, te former et puis d'étendre ton domaine de compétences. Ouais, c'est chouette, hein.
Ouais. Voilà, donc pareil. J'en apprends, mais énormément, que j'ai jamais vu auparavant sur la nutrition infantile, la nutrition pédiatrique, hyper intéressant. Et puis en même temps, tu vois, ce job dans l'industrie, il a un côté frustrant. Parce que déjà, je suis sur le marché suisse, je suis sur un marché et je ne suis pas au niveau du siège, je ne suis pas là où se développent les formules, je ne suis pas là où les produits se créent. Et quand tu es sur un marché, en tout cas là, comme c'était mon cas, bah, tu appliques, grosso modo, ce qu'on te dit de faire.
Ouais, sur une chaîne, tu es déjà un peu sur la fin des maillons, quoi.
T'es tout au bout. Les décisions, elles sont prises en amont, les décisions de formulation, de lancement de produits.
Et ça, tu trouves ça frustrant, du coup ?
Moi, je trouve ça hyper frustrant, parce que c'est des décisions qui sont quand même pas mal menées par l'aspect financier et rentabilité. Et c'est hyper frustrant quand t'es passionné, quand t'es pro de santé, parce que tu sais quand même derrière quels sont les besoins et qu'est-ce qui serait vraiment utile. Et puis, ce qui est frustrant aussi, c'est qu'on parle de pédiatrie, on parle de nutrition clinique en pédiatrie, donc une niche sur un petit marché, sur un marché suisse qui est encore un tout petit marché. Donc toi, tu vois, tu te ramènes avec toutes tes volontés pour tes produits, pour tes patients, tu as envie de proposer plein de choses, et puis on te dit ah non mais attends, ça va la pédiatrie là, oh, c'est pas prioritaire, hein.
Aïe.
Et oui, c'est super frustrant.
Donc il arrive un moment où tu te dis bon, c'est bien, ouais. Mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, ou un peu à ma façon, quoi.
Exactement. Alors, j'ai essayé d'évoluer en interne, mais compliqué. En plus, bah, je suis tombée enceinte. Forcément, quoi qu'on en dise, ça met des bâtons dans les roues. Hein.
C'est malheureux, mais c'est la réalité. Ouais.
Ça reste, ça reste la réalité. Surtout que j'ai une grossesse qui n'était pas tout simple, donc j'ai été écartée du travail pendant un moment. Et puis, je devais revenir de mon congé de maternité en mars 2020. Bonjour le Covid.
Super timing.
Absolument parfait.
Oh là là. Bon, y a des choses qu'on maîtrise pas, hein, tu vois. Ça en fait partie.
Fantastique, absolument fantastique. Donc oui, tu vois, j'ai tout ça qui commence à me travailler, de me dire, c'est, dans le fond, c'est chouette. Oui, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, ça répond pas toujours à mes valeurs, ça répond pas toujours à ce que je voudrais, puis ça répond pas aussi à ma personnalité. Il faut un certain état d'esprit, une certaine personnalité pour réussir à travailler dans ces grands groupes, dans ces multinationales. C'est de la politique aussi, on va pas se le cacher. Et je suis pas du tout un animal politique. Et moi, tu vois, aller réseauter et puis me mettre en avant par rapport aux autres. Mais c'est tellement pas mon truc.
Ah, c'est un milieu particulier.
Tellement pas. ça convient très bien à certains, pas à moi. J'y avais découvert... plein de choses passionnantes. Je suis ravie d'être passée par là. Pour autant, je pense que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais en faire, de ce que je pouvais en tirer, de ce que ça pouvait m'apporter. Et ouais, c'était plus en accord avec ce que j'étais. Clairement, la maternité aussi, ça m'a fait intellectuellement, d'un point de vue de l'état d'esprit, avancer, c'est sûr. Ça m'a fait mieux me connaître aussi et mieux assumer celle que j'étais, ce que je voulais vraiment.
Oui, on envisage l'avenir différemment, hein, une fois qu'on est parent. Hein.
Oui.
Homme
oui.
ou femme, d'ailleurs. C'est...
Oui. Oui, alors, ouais. Oui, je parlais que dans mon cas. Mais,
ouais, non, mais ouais, c'est ouais. vrai. Ouais, ouais.
Donc oui, ça a été aussi, je pense, un accélérateur... d'évolution dans ma carrière. Et malgré tout, j'avais quand même accumulé pas mal d'expériences hyper spécifiques dans ce domaine de la nutrition infantile, de la nutrition pédiatrique, de la nutrition de la femme allaitante. Et je me suis dit, mais on n'en parle pas. C'est pas connu. Personne n'en parle. Alors qu'en fait, c'est tellement important. Aussi, nutrition prénatale. Je commençais à me dire, il va falloir que j'évolue un peu, nutrition prénatale, fertilité, nutrition de la grossesse.
Ah ouais, génial.
Il y a plein de choses à faire. Donc pareil, j'ai commencé aussi, avant de quitter mon emploi, à me former là pour le coup en Australie. Pareil, on n'a rien en Europe, alors qu'en Australie, on a des formations qui sont certifiées pour les diététiciens. Évidemment qui ne sont pas reconnues en Europe, mais qui sont quand même reconnues par les associations américaines, britanniques et puis australiennes de diététiciens. Donc, malgré tout, tu vois, c'est des certifications qui, dans la profession, ont du poids, exactement. Et donc tout ça a fait son chemin, et je me suis dit, c'est pas possible que ça, on n'en parle pas, ça peut... C'est utile, c'est hyper important. Quand on parle des 1000 premiers jours de vie, la nutrition dans les 1000 premiers jours de vie, donc les 1000 premiers jours de vie, c'est cette période qui commence en préconception. On dit généralement environ 3 mois avant la conception, puisque les gamètes, ovocytes, spermatozoïdes sont formés, conçus, généralement environ à peu près 3 mois avant la conception, jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant. Mmh. C'est une période donc de 1000 premiers jours de vie, une approche qui a été définie et reconnue par l'OMS, l'UNICEF, si je ne dis pas de bêtises, où l'épigénétique a toute son importance et où l'environnement et l'alimentation qui fait partie de l'environnement influence cette épigénétique. L'épigénétique, c'est l'expression des gènes. Et on sait que pendant toute cette période, l'expression des gènes est modulable. Et tu te dis, avec l'alimentation, tu peux moduler l'expression des gènes et faire en sorte de limiter le développement de certaines maladies plus tard dans la vie. C'est quand même juste incroyable.
Ah ouais, donc tout se joue pendant cette courte période de temps, du coup, disons, parce qu'à l'échelle d'une vie,
beaucoup,
c'est rien.
Ouais, beaucoup se joue. Donc déjà, tu as la partie prénatale, fertilité, où avec l'alimentation, avec la nutrition, tu peux jouer sur la fertilité, sur les problèmes d'infertilité, sur tout ce qui va être endométriose, ovaire polykystique, les filles et compagnie. Donc déjà, tu as tout ça, les gynécos sont absolument pas au courant. Pendant la grossesse, oui, évidemment, tu accompagnes la maman, l'alimentation de la maman pendant sa grossesse. Et puis, tu peux jouer directement sur tout ce qui est nausées, diabète gestationnel, prévention de la pré-éclampsie, etc., tout ce que tu veux. Mais aussi, déjà, là, sur ton épigénétique, sur tes 1000 premiers jours. Pareil avec l'allaitement, tu peux accompagner la maman pendant son allaitement, elle, pour qu'elle le vive au mieux, et puis pour que le bébé reçoive les meilleures choses. Si les parents ne souhaitent pas partir dans cette aventure de l'allaitement, mais en fait eux aussi ont droit aux meilleurs conseils au niveau quelle formule infantile choisir, etc. Et c'est hyper important que des personnes qui savent lire les moindres détails des étiquettes derrière ces produits puissent les accompagner. Et après, tu as tout l'aspect diversification alimentaire, premières années de vie de l'enfant avec la sélectivité, la néophobie alimentaire, etc. Il y a tellement de choses à faire et on n'en parle pas.
Ça me fait penser à une phrase que tu avais mise dans le mail que tu m'avais envoyé. La nutrition est finalement l'un des premiers outils thérapeutiques pour prendre en charge certaines pathologies. Et en fait, c'est le début de tout, quoi.
Ouais, totalement. Donc là, je parle dans ce qui est maintenant ma spécialisation, mais tu regardes à l'hôpital, en clinique, tout ce que tu veux, la néphrologie, les maladies cardiovasculaires, en psychiatrie aussi, la nutrition, l'alimentation a son importance. Je pense pas qu'il y ait un service hospitalier où la diététicienne, l'alimentation, la nutrition n'est pas son rôle à jouer. Et clairement, alors oui, souvent c'est beaucoup plus facile de prendre un comprimé pour prendre en charge une pathologie plutôt que de se dire je vais modifier mon style de vie, adapter mon style de vie. Ouais. Et puis l'alimentation en fait partie parce que l'alimentation, c'est tellement plus que des nutriments. C'est du plaisir d'abord, avant tout, ça devrait être que ça au début. C'est des valeurs, c'est des voyages, c'est de la transmission, justement, les parents qui transmettent à leurs enfants. Et puis tu vois, si on fait un petit peu la jeunesse de tout mon parcours, à la base, il y a quand même ça. Tu vois, j'y ai repensé en préparant un petit peu le podcast. Je me suis dit, mais en fait, il y a une espèce... Tout est là, c'est l'origine.
Exactement. Bonne nouvelle, c'est que l'approche du... pour l'avoir vécu de l'intérieur, l'approche du diététicien, le métier de diététicien en règle générale est beaucoup, beaucoup plus valorisé et mis en avant que moi, par exemple, quand j'ai démarré comme infirmière il y a 11 ans. Le diététicien venait éventuellement pour des gens complètement dénutris ou qui ne s'alimentaient plus. Vraiment, j'avais l'impression qu'on tirait la sonnette d'alarme quand nous, on n'avait plus de solution. Et maintenant, le diététicien, on l'inclut dès le départ.
Alors, effectivement,
on entendait des trucs du genre « Ah, ce monsieur fait 120 kilos, il a été à jeun pendant 3 jours, bon bah ça va, il a de la réserve. » Mais pitié, quoi. Non, mais
c'est, tu vois, il n'y a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport et parfois, c'est même tout l'inverse. Quelqu'un qui est en surpoids, au contraire, peut être complètement dénutri de l'intérieur et puis il a l'air bien en chair, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les choses, elles évoluent quand même.
Oui, ça évolue gentiment. Ça part de l'hospitalier, ça c'est bien. Oui, notamment aux soins intensifs. Il y a aussi une grosse, grosse part de la nutrition et même les médecins spécialistes en soins intensifs le prennent de plus en plus en compte. Ouais, et ouais, c'est ouais, hyper intéressant. Et oui, dans le secteur hospitalier, on arrive maintenant vraiment à travailler la main dans la main. Et justement, quand j'étais en stage à l'époque à Paris, on était l'un des premiers hôpitaux pilote pour un projet où les diététiciens commençaient à avoir la possibilité de prescrire eux-mêmes. Tu vois, il y avait une délégation de soins la part des médecins. Et j'ai trouvé ça génial. Les diététiciens pouvaient prescrire certaines analyses. Les diététiciens pouvaient prescrire justement certains SNO, ou certaines nutritions entérales, etc. Mmh. Et ouais, quand même, c'est notre métier, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, je trouve aussi maintenant, pour moi, pour avoir beaucoup travaillé avec les anesthésistes, ils faisaient intervenir les diététiciens beaucoup plus facilement. Oui. Vous oubliez pas, vous appelez diététicien. Ouais. Alors que, voilà, il y a quelques années en arrière, on attendait d'avoir un vrai gros problème, limite d'être arrivé beaucoup trop loin, pour appeler le diététicien. Donc, heureusement, maintenant, il y a cette notion un peu de travail en équipe qui a un peu changé. Bon, il y a encore beaucoup à faire, mais ça change.
Non, mais ça évolue. Et clairement aussi, en préopératoire, avant un certain nombre de chirurgies, on sait aussi que des approches de la nutrition ont des intérêts pour une meilleure récupération par la suite.
Mmh, complètement.
Voilà ce qui est... ce que j'ai adoré dans mon expérience dans l'industrie, c'est quand même toute cette ouverture à la recherche, à la science de la nutrition. Et maintenant, on a des études, on a du recul, on commence à avoir des études et du recul. La nutrition, c'est une science qui est hyper récente, c'est une science qui est hyper jeune. Pendant longtemps, on ne s'y est pas du tout intéressé. Mais là, quand même, maintenant, et comme on a de plus en plus ces études, on sait que oui, avec telle ou telle approche de la nutrition, on peut tellement améliorer l'état de santé du patient, sa récupération, sa cicatrisation, tout ce que tu veux.
Et alors toi, ces différentes formations t'amènent du coup à t'installer en libéral?
Oui.
Ouais, toute seule.
Toute seule. J'ai démissionné. Comme ça, mon mari a lâché l'affaire au bout d'un moment. Je crois que ça faisait 2 ans déjà que je mûrissais ce projet. Je savais que je voulais faire quelque chose, pas exactement quoi. Puis un jour, on se dit, ah, c'est bon, j'en ai marre. Je pars et puis je me lance là-dedans. Je m'installe. Il me fait, bon, ok, de toute façon, je pourrais pas te dire stop parce que t'as tellement ton idée en tête.
Que veux-tu que je te dise, quoi.
Il y a un moment... donc tu démissionnes, tu crées ta boîte, pas de droit au chômage, rien du tout, pas de parachute, rien. Et ouais, donc là, ça fait 1 an maintenant que je suis installée en tant qu'indépendante, comme diététicienne prénatale et pédiatrique, également diététicienne de la femme allaitante. Et alors là, c'est tout autre chose. D'un côté, j'adore. Il n'y a pas un jour où je me lève le matin, je me dis « Ah, oh, j'ai pas envie de bosser », c'est même plutôt l'inverse, tu vois, je serais du genre à bosser tout le temps, bon, sachant que j'ai mon fils à côté, mon rôle de maman, la maison, tout ce que tu veux, mais, mais je pourrais bosser en permanence tellement ça me passionne. C'est l'évidence, ça a confirmé tout ce que... Je sentais, j'espérais, quand j'étais plus jeune, avant de choisir mes études, les formations continues que j'ai faites. Et oui, c'est évident. Et là, tu te retrouves par contre confrontée à la réalité de « on ne connaît pas notre métier dans le libéral ». Les jeunes médecins qui sortent là de l'hôpital commencent à avoir le réflexe. Mais pouf,
c'est dur.
C'est pas encore ça.
Ouais.
C'est pas facile. Donc, tu as cette première réalité-là. T'as la réalité diététicien, nutritionniste.
Ah oui, alors on peut en parler, hein, ça. Du coup, la différence, d'ailleurs, j'en profite pour renvoyer les gens vers l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, avec Julie, qui était médecin nutritionniste spécialisée en nutrition du grand obèse. Voilà, si vous voulez avoir un parallèle entre les deux métiers, est-ce que toi, du coup, Stéphanie, tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce qui pousse les gens à pousser la porte de ton cabinet ou à pousser la porte d'un médecin nutritionniste?
Alors, c'est même pas tant ça, je rajouterais une troisième chose qui n'est pas un métier à proprement parler, c'est nutritionniste tout court.
D'accord.
Nutritionniste, en fait, est un qualificatif, rien de plus. Le métier de nutritionniste, en soi, n'existe pas. Là, je vais me prendre les foudres de tous ceux qui ne sont pas diététiciens et qui se disent nutritionnistes, mais voilà, Le métier de diététicien est un métier qui est reconnu par le code de santé publique, tout simplement, qui est défini par des articles de loi. On est professionnel de santé, on est le seul professionnel de l'alimentation, de la nutrition. Donc, tu as effectivement d'un côté le médecin nutritionniste qui, comme Julie le disait extrêmement bien, la nutrition dans la médecine, c'est une surspécialisation. Donc, tu es médecin. Ensuite, tu as ta spécialisation, que tu sois généraliste, que tu sois endocrino, que tu sois gastro-entérologue.
Exact, ça l'explique très bien dans l'épisode.
Ouais. Vraiment top. Et par-dessus, si tu as envie, tu peux encore te spécialiser en nutrition. Et généralement, le médecin nutritionniste va être celui qui chapeaute un petit peu le service diététique dans les hôpitaux. Donc, première chose. Aussi, celui qui va, pourquoi pas, mener des protocoles de recherche, par exemple. Ce genre de choses. Ça dépend vraiment beaucoup des structures. Donc ça, c'est médecin nutritionniste. Ensuite, tu as diététicien. Alors, on peut se dire diététicien nutritionniste, hein, c'est absolument pas un souci, puisque
si
c'est un qualificatif qu'on peut rajouter à notre titre. Donc, le pro de santé, paramédical, au même titre que infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste, ce que tu veux. Spécialiste de l'alimentation, alimentation et nutrition. Et par la loi, en France, on est les seuls à pouvoir prodiguer des conseils nutritionnels. Tu n'as pas le droit de prodiguer du conseil nutritionnel si tu ne portes pas le titre de diététicien.
D'accord.
Et à côté de ça, malgré tout, depuis des années et des années, tu as ces nutritionnistes qui se sont développés, qui sont des personnes donc, qui n'ont pas passé de diplôme de diététicien, qui ont suivi des formations dont aucune n'est reconnue. Ça n'amène pas un diplôme reconnu. Ça amène une attestation de formation que je ne connais pas en détail.
Oui.
Mais tout le monde, en fait, peut se dire nutritionniste. Tu peux être plombier nutritionniste si tu as envie.
Enfin, donc, tu n'es ni médecin, ni diététicien.
Absolument. Voilà, et tu n'es pas professionnel de santé.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Donc, bien se méfier quand même de... Enfin, se méfier. En tout cas, être conscient que, voilà, il y a plein de... Se méfier, c'est pas le bon terme. Mais voilà, il y a plein de rôles différents. Voilà, il faut être au courant de ça.
Ouais. Que du coup, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais pas quelle est la formation qu'il y a derrière.
Ouais, exactement.
Et tu sais pas quelle prise en charge tu as. Mais par contre, nutritionniste, c'est tellement plus glamour que diététicien. Mais tellement.
C'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est vrai. Ouais, c'est...
Mais oui, et dans la tête des gens, je sais pas, tu vois, c'est genre, ah, t'es diététicienne
ouais.
Ah, mais non, moi, je veux voir un nutritionniste. Tellement mieux.
D'accord.
Tu vois.
Alors, attends, reprenons.
C'est exactement ça. Alors, reprenons.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. D'autant que la nutrition, en fait, ça paraît tellement facile pour tout le monde. On mange 3 fois par jour, au moins, 4, 5, tous les jours de sa vie. Donc, ça fait partie de notre vie de manger, de se nourrir, contrairement, bah, par exemple, à un soin infirmier, contrairement à une rééducation qui n'est...
Vu que ça part d'une habitude de vie qui est propre à chacun... On a peut-être du mal aussi à se dire qu'on a besoin d'aide pour quelque chose qui finalement paraît si inné, parce que bah, quand on a faim, on mange.
Oui.
Mais je vois ce que tu veux dire.
Et puis ça paraît simple bah, parce que le domaine de la nutrition, c'est aussi le domaine du complément alimentaire, c'est le domaine de plein de choses, et puis c'est en vente libre, et puis c'est marketé, et puis tout ce que tu veux. Donc en fait, ça paraît hyper accessible, hyper facile, c'est pas régulé. Tu vois, et toute l'information qu'on trouve à profusion, bien évidemment, sur Internet, tout ce que tu veux. Donc, ça paraît facile de se dire nutritionniste ou ça paraît facile, par exemple, pour un autre professionnel de santé, de se dire bah, « je vais aussi donner des conseils en nutrition à mes patients, etc. » Et c'est là, pour en revenir au départ, à toute la difficulté vraiment de notre métier et entre diététiciennes, entre collègues diététiciennes, mais... Tu savais le nombre de fois où on se dit eh, « c'est bon, je laisse tomber, j'en ai marre de faire mon métier.
»
J'en ai marre, quoi. Je laisse la place à quelqu'un d'autre parce que nous, on est derrière, on se bat pour faire reconnaître notre expérience, notre expertise, nos compétences qui peuvent être hyper spécifiques. Et puis, c'est difficile, surtout que la sécurité sociale le reconnaît assez mal parce qu'on est Je crois avec les orthophonistes, les seuls paramédicaux qui ne sont pas remboursés, ou les ergothérapeutes, il y a un truc comme ça.
Ils sont remboursés en tout cas, mais...
Alors c'est que les ergothérapeutes,
c'est
mais
possible, ouais.
Ouais, on est les seuls ou les presque seuls paramédicaux à ne pas être remboursés. Mmh. Et là, tu te dis, mais pourquoi, en fait, alors qu'on peut faire tellement de prévention et de soins aussi. On parle de prise en soins diététiques, hein, malgré tout. Donc, à l'hôpital, oui, c'est prise en charge, mais pas en libéral. Oui, ça. Alors là, ça soulève plein de questions, hein, de la reconnaissance de la profession, mais on se dit qu'on n'est quand même pas aidé.
Et les stéréotypes, alors parlons-en aussi.
Oui.
Tu disais le fameux moins 3 kilos pour le maillot, ça c'est navrant aussi, quoi, d'entendre ça chaque année, à peu près, à l'aube de l'été.
Oui, totalement. Ça me fait penser récemment à une personne qui m'appelait parce qu'elle avait pris du poids récemment et puis elle cherchait une méthode pour perdre rapidement son poids. Et je lui dis, mais venez pas chez moi, en fait. Parce que c'est pas ce qu'on va faire ensemble, c'est pas le travail qu'on va faire ensemble. Moi, je veux pas vous donner un bout de papier avec des quantités que vous devez manger. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que ça va être le meilleur moyen. En fait, vous allez vous sentir sous restriction pendant X temps. Vous allez être totalement déconnecté de vos sensations alimentaires. Probablement, vous l'êtes déjà aussi. Et ce qu'on cherche, c'est pas à vous faire faire un régime, c'est pas à vous faire perdre du poids. Ce qu'on cherche, c'est à vous permettre de vous sentir bien déjà avec vous-même, avec votre corps, de renouer avec vos sensations alimentaires pour manger de façon... Alors, on parle beaucoup d'alimentation intuitive en ce moment, depuis quelques années.
C'est vrai.
Et il y a une phrase que je trouve tellement juste qui dit « Si la culture des régimes n'existait pas, l'alimentation intuitive s'appellerait l'alimentation. »
Ah.
Ça veut tout dire, en fait.
Ouais.
Et là, on se rend compte, comme depuis 30, 40 ans, on évolue clairement dans un univers, dans une culture, oui, du régime, où on doit avoir tel type de corps, où les aliments sont étiquetés bons, mauvais, sains, malsains.
Et la culture aussi, alors bon, tu exerces en Suisse maintenant, mais je pense que les choses sont pas si différentes de la France, mais tu finis pas ton assiette, c'est mal poli. Enfin, ce genre de choses aussi.
Oui, par exemple.
J'ai plus faim, quoi. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas un appétit démesuré. En plus, je mange plutôt souvent et peu que énormément trois fois, par exemple. Et moi, une énorme assiette où on te resserre, où tu sais que la dame qui te sert, qui a 70 ans, fera la tête, voilà, par exemple, pour l'avoir vécu, c'est très dur, quoi, parce qu'on t'incite à finir ton assiette alors qu'on te fait comprendre que c'est mal poli, c'est trop dommage.
Oui,
quoi.
Non, mais ça, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, du coup, on travaille dès tout petit, dès la naissance, dès la diversification, justement, de rester connecté. Ouais, à tes sensations alimentaires. T'as faim, mais écoute, tu le dis, on mange, t'as plus faim, tu t'arrêtes. Et puis, si un repas, t'as pas faim, ben, c'est sûrement tout à fait normal. Et il y a un autre repas où t'auras plus faim. Et ben, tu pourras manger à ta faim, vraiment. Et c'est essentiel pour toute la vie. C'est vraiment essentiel. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi toutes ces étiquettes qu'on donne aux aliments. Il y a un petit truc tout bête. T'as envie d'un carré de chocolat. Puis, tu te dis, ah non, mais le chocolat, c'est pas bon pour la santé, ça fait grossir, je sais pas quoi. Je vais manger une pomme plutôt. Puis en fait, ça va toujours pas, t'as toujours très envie de ton carré de chocolat. Bon, alors je vais me faire un yaourt. Puis ça va toujours pas, tu manges du pain avec. Après, tu dis, ah non, mais j'en ai marre, je me fais mon carré de chocolat.
Oh, il valait mieux le manger tout de suite. Hein.
Ouais. Mais voilà.
Ouais.
Mais exactement. Et donc, pour en revenir à cette personne qui me contactait, et c'est aussi pour ça que c'est très bien de parler avec les professionnels de santé avant de s'engager ensemble dans un accompagnement, parce qu'il faut que ça matche. Je disais, voilà, moi, mon approche, ce ne sera pas de vous dire dans 3 mois, vous aurez perdu 10 kilos, parce que je ne peux pas vous le dire, et puis ce n'est pas forcément le but, et peut-être que 10 kilos en moins, ce n'est pas ce dont votre corps a besoin, ce n'est pas ce pourquoi votre corps est fait, enfin... Il y a tellement de choses qui tournent autour. Et tu vois, cette personne ne m'a jamais rappelé. Mais tant mieux, parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle a besoin d'une autre approche. Peut-être qu'elle doit acheminer. Peut-être qu'elle s'orientera vers quelqu'un qui, à l'heure actuelle, répondra mieux à ses besoins. Mais voilà, c'est aussi très, très complexe. Et puis, l'autre complexité aussi, c'est que, oui, on mène des consultations, on accompagne nos patients, mais on ne vit pas avec nos patients. Tu sais, c'est pas comme par exemple de la rééducation ou un coach sportif où bah, quand t'es avec lui, t'as intérêt. Enfin, ouais, il est là et forcément, tu fais des rééducations ou tu fais ton sport ou quoi que ce soit.
Oui, tu le fais devant le professionnel. Quoi.
Voilà, exactement. Ou toi, en tant qu'infirmière, tu prodigues des soins et puis les soins sont faits. Nous, malgré tout, on a beau essayer de transmettre tout ce qu'on peut, c'est le patient, la personne qu'on accompagne qui reste responsable. De ce qu'il fait, de ce qu'il mange, de ce qu'il met dans son assiette. Et on a cette part où on ne peut pas contrôler aussi. Donc voilà, en fait, le domaine est extrêmement large, extrêmement vaste et soulève tellement de problématiques. Donc oui, ce serait bien si les pouvoirs publics un petit peu se réveillaient et puis prenaient en considération tout ça et se disaient que vraiment, ça pourrait être utile si on remboursait cet accès aux soins diététiques aussi.
Ah oui, mais c'est comme le drame que les consultations de psychologie ne soient pas remboursées. Alors oui. Je sais qu'il y a toute une discussion et que ça a peut-être un peu changé. Et en revanche, on remboursera une consultation chez un psychiatre.
Par exemple.
Avant de pousser la porte d'un psychiatre, on pourrait aussi pousser la porte d'un psychologue pendant parfois plusieurs années pour peut-être un jour ne pas avoir à pousser la porte du psychiatre.
Oui.
Et ça fonctionne dans plein de domaines, mais la prévention, elle a son rôle aussi
la
à
prévention.
Jouer.
Hein. Oui, totalement.
Plutôt que le curatif,
Oui, alors petit à petit, tu vois, ça avance, il y a les mutuelles, les assurances complémentaires qui commencent doucement à rembourser. Pour la Suisse, malgré tout, l'assurance santé de base rembourse les consultations diététiques selon certains critères de pathologie, mais on est déjà dans la pathologie.
Ouais, c'est ça.
On n'est pas dans la prévention.
Ah oui, mais il faut que les choses bougent.
Oui, il faut que ça bouge.
Bon, en tout cas, tu es heureuse maintenant dans cette dans ce nouveau pan de ta carrière, maintenant en libéral, avec ces gens que tu reçois dans ton cabinet. Comment tu le vis ?
Oui, je suis vraiment heureuse de ce que je fais et j'essaye vraiment de me démener pour informer. Que ça existe, que la nutrition prénatale existe, que la nutrition infantile pédiatrique a tout son intérêt. Donc, je suis aussi dans une grosse phase d'information auprès des professionnels de santé, auprès des médecins, auprès des professionnels de la petite enfance et puis auprès de la population, c'est un bien grand mot. Hein.
Non, mais il faut voir les choses en grand.
Mais voilà, allez, voyons grand.
Et tu arrives à prendre contact avec... Comment est-ce que tu fais la promotion, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais de ton métier auprès de ces professionnels-là ? Comment ça se passe ?
Ouais, les rencontrer, c'est très difficile parce qu'ils sont surchargés, ils n'ont pas forcément de temps à t'accorder. Je les ai contactés plutôt par écrit, tu vois, par mail, par courrier. En ce qui concerne notamment la petite enfance, je reçois beaucoup de familles au moment où ça devient un peu catastrophique. Tu vois, donc, par exemple, commencer la diversification alimentaire, c'est parti en cacahuète et puis c'est à ce moment-là qu'elles viennent me voir.
Okay.
Et là, je me suis dit, mais il y a tellement besoin d'agir avant. En fait. Et un des derniers projets que j'ai fait, que j'ai payé sur mes propres deniers, alors que mon entreprise n'est pas encore rentable, mais pour moi, la prévention est tellement essentielle. J'ai créé des petits mémos à destination des pédiatres que j'ai envoyés aux pédiatres autour de moi pour qu'ils aient ne serait-ce qu'une base. Tu vois, forcément, ils n'y sont pas à jour, mais c'est normal, ce n'est pas leur métier.
Ouais.
Chacun leur métier, chacun son métier. La nutrition est un métier à part entière. Donc, les médecins ne maîtrisent pas. C'est normal. Mais dans ce cas, c'est pour ça que c'est essentiel qu'on travaille ensemble. Donc, je me suis dit, comment leur faire prendre conscience que, il y a des paramédicaux autour d'eux, il y a des professionnels
qui
sont formés à ça, exactement, et vers lesquels ils peuvent donner le relais. Tu vois, donc ça, c'est un peu la dernière chose que j'ai faite, aussi pour toucher au niveau local. Parce que maintenant, on communique beaucoup sur Instagram, les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais la difficulté, c'est que tu tapes un peu partout et un peu nulle part.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis, tu donnes beaucoup d'informations. Alors, ça prend un temps fou de communiquer sur Instagram. Tu donnes beaucoup d'informations, c'est génial, ça informe. C'est gratuit, donc c'est super pour les personnes qui sont en face. Par contre, toi, ça t'aide pas à payer tes factures à la fin du mois.
C'est sûr.
Et c'est vrai que les informations au niveau local restent quand même, à mon avis, essentielles. Donc voilà, je suis partie sur cette approche de les contacter par courrier, par mail, parfois par coup de fil. Alors, ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, on se rencontre, des fois pas. Mais il y a des petites graines qui se plantent. Et puis, je remarque aussi qu'entre professionnels de santé, ça commence aussi à se développer. Ce qui est super chouette, c'est que avec les sages-femmes, on travaille super bien ensemble.
Ah, super.
Ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment super. Et là, on s'envoie bien le relais de plus en plus, tu vois, parce qu'elles aussi prennent conscience de se dire « mais en fait, moi, je ne peux pas tout faire. »
Les limites déjà... de leur formation, oui, oui.
Exactement, exactement. Elles ont déjà une formation qui est hyper vaste, hyper complète, de la gynécologie, de l'obstétrique, de l'accouchement, du suivi,
voilà,
postpartum, ouais, ouais. Absolument. Et il y a un moment, elles ne peuvent pas non plus bien accompagner l'alimentation, la nutrition des futures mamans, des bébés, etc. Et c'est normal, chacun son job. Et ben voilà, pareil, en les informant, en leur faisant connaître ce que je fais, en trouvant des moments, des liens où on peut se passer le relais, ça aussi, c'est super intéressant. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant que quand, entre professionnels de santé, on s'adresse des patients parce que, justement, on se rend compte de nos limites, on valorise les compétences de l'autre. Et tout ça, ça se fait dans l'intérêt du patient parce que je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel et ce qu'il ne faut pas oublier. On fait tout ça avant tout pour nos patients, pour qu'ils aient le meilleur accompagnement, qu'ils aient les meilleures réponses à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment chouette. Quand on peut proposer une approche multidisciplinaire, oh, c'est super. Je trouve que c'est vraiment super.
Il n'y a que comme ça qu'on avance. Hein.
Mais totalement. Ouais. Totalement.
Admettre qu'on a besoin d'allier nos forces pour atteindre un objectif, pour accompagner les patients. Il n'y a que
mais
comme
oui.
ça que ça fonctionne, hein, depuis dans tous les domaines. Hein, mais,
Et c'est pour ça qu'on a tous des spécialités et des métiers différents.
Bien sûr. Ouais.
Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire et c'est juste impossible.
Et puis, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, comme tu dis, qu'une sage-femme n'a déjà peut-être pas forcément le temps d'aborder tous ces sujets voilà, liés à diététique parce qu'elle a déjà tellement de choses à expliquer aux futurs parents, etc. Et puis, comme tu dis, le domaine de compétences est tellement vaste qu'à un moment, il faut aussi dire, écoutez, je vais vous orienter vers quelqu'un dont c'est la spécialité, vraiment.
Ouais. Donc, voilà, quand tu me demandais comment je faisais un petit peu connaître tout ça, de plus en plus, plutôt entre paramédicaux, et je trouve ça chouette.
Ouais, carrément. Bah, merci Stéphanie, merci beaucoup. Hein.
Bah, écoute, merci à toi.
super intéressant. On va finir par le petit portrait chinois, pour apprendre à te connaître encore mieux. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Tu vois le petit outil des Men in Black, là, pour effacer la mémoire.
Oh,
non, mais attends, je vais t'expliquer.
Très bien.
Tu vois le truc?
Oui, complètement.
Ouais. Et ben, pour permettre à, justement à tout le monde de s'enlever de la tête toutes ces idées reçues sur l'alimentation et sur la nutrition. Oh là là, mais ça nous aiderait tellement.
Quelle est la plus grande idée reçue?
Le gras, ça fait grossir?
Ah ouais, d'accord.
Par exemple.
Ouais. Genre tous les gras, toutes les matières grasses, quelles qu'elles soient.
Ouais. Ça, je pense qu'on est pas mal quand même. Faut c'est pas vrai. Manger gras, ça fait grossir.
C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est pas mal ça. question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail. Le gras, ça fait pas grossir.
Non, le gras, c'est la vie. non, je pense que c'est quelque chose du style. Bon alors, je vous explique. Ou on reprend.
On reprend, c'est ça.
Justement, en lien avec toutes ces idées reçues, et on reprend.
question suivante, plutôt thé ou café?
À thé. Earl Grey, avec un nuage de lait.
Oh, à l'anglaise.
Ouais, carrément. Et tu sais, de plus en plus chicorée aussi.
Oh, dis donc.
Mais oui.
Je crois que tu es la première personne à citer la chicorée en 30
des formations professionnelles. J'ai quand même des petites déformations professionnelles.
La question suivante, c'est plutôt crocs ou basket? Mais du coup, je crois que tu exerces du coup en tenue civile.
Du coup, chaussettes.
Ah oui, carrément.
Au cabinet, je suis en chaussettes parce qu'on a des enfants au cabinet. Et puis, c'est très suisse d'enlever ses chaussures avant de rentrer.
C'est très bien.
Et comme j'ai aussi toute une partie de mon activité qui est en ligne, je suis à la maison, je suis en chaussettes.
Oh bah écoute... Il ne faut plus que tu te prives de ce plaisir-là. J'enregistre actuellement pieds nus. Hein. question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
je pense, 10 lieux d'exercice en un an, ou toutefois 10 aspects de l'exercice en un an. Et c'est vrai que je m'en rends compte vraiment maintenant. J'ai toujours eu la bougeotte, c'est clair. Et là, oui, je pense que je fais 10 fonctions en une, et oui, ça me va assez bien.
Oui, entre, comme tu dis, le prénatal, le père pendant la grossesse, le postnatal.
Le postpartum, ouais. Et puis aussi, quand tu as ta boîte, t'es comptable, t'es secrétaire,
community manager.
Responsable communication. Community manager, maintenant, on te le demande beaucoup.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier de diététicienne, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée ?
Journaliste scientifique.
Ah, d'accord.
Ouais. Je pense que ça aurait regroupé vraiment tout ce que j'adore. Déjà, la langue française. J'adore manier la langue française. J'adore ça. Alors, j'ai de moins en moins l'opportunité de le faire. Et je reconnais que le cerveau de jeune maman complique les choses. Donc, pour cet aspect-là, pour tout l'aspect aussi de vulgarisation scientifique. Donc, de pouvoir éplucher les études, rentrer dans les détails et vulgariser tout ça. Je trouve ça passionnant.
Bravo. Et alors, attends, j'ai envie d'ajouter une question bonus. Alors là, je te prends au dépourvu parce que je ne l'ai absolument pas mise dans le mail. Mais si tu avais 3 conseils à donner à... j'essaye de me caler sur l'un des moments de vie que tu abordes dans ton métier. Mettons, on parlait du jeune parent qui est en train de diversifier l'alimentation de son enfant. Si tu avais 3 conseils à donner à un jeune parent.
Écouter son enfant, le suivre. Laissez-vous guider par lui, c'est essentiel pour les quantités, pour tout. Transmettre du plaisir, transmettez ce qui vous parle dans l'alimentation, vraiment. Prenez le temps, écoutez-vous, laissez-vous le temps.
J'aime bien qu'il y ait toujours une petite visée éducative ou informative, non pas qu'on n'ait pas fait ça depuis le début de l'épisode, mais tu vois, voilà, s'il y a des jeunes parents qui nous écoutent, vu qu'on a parlé du sujet, parce que ça peut être une période un peu compliquée, t'es bien placée pour le savoir, mais...
Oui, ça c'est qu'est-ce que je dois faire absolument, combien je vais lui donner, mais non, en fait, on se détend. Ouais. Oui, mais est-ce que je dois commencer par la courgette et la carotte, mais ce que t'as dans le frigo, est-ce qu'il y a de saison? Pareil, on a tellement d'idées reçues là-dessus. Et ce qui est compliqué, c'est que les recommandations ont changé en 2019. Là, maintenant, on a des vraies recommandations qui sont soutenues par des études et ça chamboule un petit peu tout ce qu'on disait avant. On n'a plus ce calendrier d'introduction des aliments. Maintenant, c'est bon, on introduit tout dès le début. Et puis surtout, on met l'accent sur les textures. On varie les textures le plus vite possible. Ça ne veut pas forcément dire morceaux, DME, tout ce que tu veux, hein. Mais les textures, on varie, on passe du lisse au granuleux, au grumeleux, on évolue, on revient en arrière, et puis on fait découvrir tout un tas de saveurs, parce que le petit enfant, le petit bébé, il est ouvert à tout ça, il faut en profiter. Donc,
c'est vrai.
Faites-vous plaisir.
Ouais, ouais. Si ça peut éventuellement se compliquer après, c'est vrai qu'au début, il faut en profiter, ouais, quoi, pour tout faire tester. Moi, je me suis même forcée à faire manger des légumes à ma fille que je déteste vraiment, genre cuire du fenouil. Oh là là, mais rien que d'avoir l'odeur dans la cuisine, c'est vraiment un truc que je déteste. Mais je me suis dit, non, mais n'en fais pas une enfant compliquée comme tu as pu l'être avec l'alimentation. Petite, c'était très difficile. Avec le temps, je me suis un peu améliorée, on va dire. Et je me suis forcée, voilà, à lui faire manger des choses que je n'apprécie pas de prime abord.
Mais c'est important aussi de respecter les choix de chacun. C'est normal qu'on ait des goûts. Respecter les goûts de chacun, c'est normal. Et puis les goûts, ils évoluent. Et puis voir ce moment-là comme une découverte de l'alimentation. Vraiment.
Eh bien voilà, le message est passé. S'il y a des jeunes parents qui nous écoutent, voilà, on espère que maintenant vous avez tout en main pour...
C'est de la découverte.
Ouais, c'est de la découverte. Un grand merci Stéphanie pour tout ça.
Merci à toi Marielle.
Et puis je mets toutes tes références, surtout que tu parlais de consultation en ligne. Voilà, je glisse tout ça dans la description de l'épisode s'il y a des gens que ça intéresse.
C'est gentil, merci.
Et puis bonne continuation Stéphanie.
Mais merci, à toi aussi.
À bientôt.
Au revoir Marielle, à bientôt.
Merci beaucoup à Stéphanie d'avoir aussi bien déconstruit les a priori en lien avec son métier. Forte de son double cursus, elle met aujourd'hui son expérience très riche au service de ses patients. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.